Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Il est 6h. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre ce matin en direct, ce mardi 17 juin 2025. Ravi d'être avec vous pour faire un point de l'actualité, cette guerre qui se poursuit entre l'Iran et Israël. Et oui, toute l'actualité en Israël, on va en parler pour ce 620e jour de guerre avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et à la réalisation, Greg Labadie est avec nous. Bonjour Greg.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Comment allez-vous les amis?
Très bien.
Très bien, très bien.
Très bien.
Magnifiquement bien.
Eh bien écoutez, ça nous fait plaisir en tout cas. D'être avec vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Également, l'inverse est réciproque.
C'est réciproque. Eh bien, j'avais besoin de l'entendre ce matin. Les amis, on va faire le point donc de l'actualité. Et évidemment, vous connaissez nos rendez-vous du matin. Nous serons avec Pascal Sunshine à Jérusalem à partir de 6h07. Et on va revenir aussi sur ce qui se passe en ce moment à Gaza. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. On sera avec Sébastien Lévy également, notre correspondant à New York, aux États-Unis. Revenir sur le soutien de Donald Trump dans cette guerre Iran-Israël. Essayer de faire un petit peu le point, de nous éclairer sur ce qui se passe, parce que les déclarations ne sont pas forcément très claires pour tout le monde. Et puis, avant 7h, un peu de musique. On sera avec Frédéric Zetoun, qui se produira la semaine prochaine au Casino de Paris. Vous restez avec nous. Mais d'abord, l'actualité. Donc, avant de revenir à ce qui se passe entre l'Iran et Israël, eh bien, il y a la guerre, Eva, contre le Hamas à Gaza qui continue.
Deux soldats ont été tués dans des combats au sud. Il s'agit du sergent-chef Naveh Leshem, 20 ans, de la brigade Golani. Il était originaire de l'implantation de Notkim en Judée-Samarie. Un terroriste a placé un engin explosif à l'extérieur de son véhicule à Khan Younes. 10 autres soldats ont été blessés, dont 4 grièvement, et un autre soldat, Tal Movkovitch, 28 ans, commandant adjoint de compagnie du bataillon du génie de combat, originaire de Réout, a lui aussi été tué.
L'actualité, c'est donc aussi la guerre en Iran, avec ses nouvelles alertes au milieu de la nuit, encore à Haïfa et dans les zones environnantes du Nord.
Mais le nombre de missiles tirés par le régime islamique a diminué, et contrairement à ces derniers jours, il n'y a pas eu de victimes cette nuit. C'est dans ce contexte que le premier ministre israélien n'a pas exclu sur ABC l'élimination d'Ali Khamenei. À la question de savoir s'il comprenait les craintes du président Trump sur le fait que cela puisse aggraver le conflit, le premier ministre israélien a répondu ça.
Cela ne va pas aggraver le conflit, cela va y mettre fin. Nous avons connu un demi-siècle de guerre propagée par ce régime qui terrorise tout le Moyen-Orient, bombardant les champs pétroliers d'Aramco en Arabie Saoudite et propageant le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. L'Iran veut une guerre sans fin et il nous mène au bord de la guerre nucléaire. En réalité, ce que fait Israël, c'est l'empêcher, mettre fin à cette agression. Et nous ne pouvons y parvenir qu'en nous dressant contre les forces du mal. Écoutez, les démocraties ont dû en tirer la leçon.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui affirme que les États-Unis sont parfaitement en accord sur les objectifs de la guerre avec l'Iran. De son côté, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé sur CNN que les États-Unis étaient dans l'obligation d'aider Israël. Mais le président Trump dit encore croire aux négociations. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères européens se retrouvent aujourd'hui pour une réunion spéciale.
Et puis vous avez peut-être vu ces images. La radio-télévision d'État iranienne visée par une frappe israélienne hier, Tzal avait appelé les habitants du quartier de Téhéran où se trouve son siège justement à évacuer.
L'attaque a eu lieu pendant un direct où une animatrice voilée s'est fait surprendre lors de son intervention. Un gros boom de la fumée, sa fuite du plateau. L'image rendue cocasse par ce qui semble être une diatribe violente puis sa sortie du champ de la caméra a fait le tour des réseaux sociaux, donnant même lieu à des détournements d'internautes. En tout cas, les programmes ont été momentanément interrompus. Le régime islamique a dénoncé un crime de guerre et a même osé en appeler à l'ONU.
Les dirigeants du G7 appelle à une désescalade avec l'Iran, tout en soulignant qu'Israël a le droit de se défendre.
Le président américain a appelé les habitants de Téhéran à immédiatement évacuer la ville alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Mais Donald Trump refuse d'évoquer une participation à l'opération lancée par Israël contre le régime islamique et son programme nucléaire.
Le reste de l'actualité, c'est la France qui ferme 5 stands israéliens d'armement au salon du Bourget. Ils ont été encadrés de grands panneaux noirs.
Leur accès est impossible. C'est comme créer un ghetto israélien, a dénoncé le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Je trouve ça scandaleux et cela doit être immédiatement corrigé, a-t-il dit. 5 sur les 9 entreprises israéliennes présentes au salon sont visées. Selon une source française, elles présentaient des armements offensifs comme ceux susceptibles d'être utilisés à Gaza, ce qui violerait le cadre prévu au départ.
Et puis, politique en France, après avoir traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, Jérôme Gadge regrette la forme de ses propos, mais pas leur fond.
Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gadge, hier soir sur BFM TV.
Je vais exprimer un regret. C'est celui d'avoir utilisé ce terme de salopard parce qu'il n'est pas conforme à la conception que j'ai du débat politique. Il est venu comme ça dans l'emportement de ce moment-là et dans cette nécessité aussi de secouer là où je voyais poindre une forme d'inertie parce que le cœur du débat était de savoir est-ce qu'on pouvait continuer à avoir des relations avec la France.
Donc vous regrettez ces propos ?
Non, je regrette le terme de salopard et en plus, il n'était pas utile. C'est une forme de pléonasme. Antisémite suffisait.
Jérôme Gadge, hier soir sur BFM TV.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve tout au long de cette édition. Et comme chaque matin, un petit point sur la météo pour savoir comment vous habiller aujourd'hui, ce matin, cet après-midi. Alors c'est pas très compliqué puisqu'il va faire très beau. Quelques nuages sont présents certes en bord de Manche, mais se dissiperont facilement dans l'après-midi. Il fera chaud, 29 degrés à Paris, 33 à Perpignan, 18 à Cherbourg. Et puis en Israël, le soleil brille généreusement partout également, 28 degrés à Jérusalem, 31 à Beersheba, 36 à Eilat.
Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J et comme tous les matins sur cette antenne, nous sommes avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci Pascal, encore une nuit sous les alertes. C'est compliqué hein, cette guerre effectivement, on va en parler entre l'Iran et Israël, mais d'abord peut-être un mot aussi de ce qui se passe en parallèle dans la bande de Gaza, puisque on l'a dit ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes, hein, Pascal.
Oui, il ne faut pas oublier que la guerre continue contre le Hamas sur le front sud. Hier soir et ce matin, on a encore appris la mort de 2 soldats, le capitaine Tal Mokshovitz, 28 ans, et le premier sergent Nave Leshem, 20 ans, tombé hier dans 2 incidents séparés dans le sud de la bande de Gaza.
Alors, les combats se poursuivent donc à Gaza et en Iran, évidemment, de nouvelles alertes donc au milieu de la nuit à Haïfa. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, Pascal, cette nuit ?
Alors, cette nuit, l'Iran a encore tiré contre Israël un total de 6 missiles balistiques à 3 reprises dans le nord et le centre du pays. Les sirènes ont retenti. C'est seulement lors de l'attaque de minuit que la population a reçu une préalerte d'une quinzaine de minutes. Pour les 2 attaques suivantes, c'était seulement l'alerte de 90 secondes avant les sirènes, ce qui s'explique par le fait que l'Iran n'a donc tiré que quelques missiles à la fois et non plus des salves de plusieurs dizaines comme il l'a fait au cours des 3 jours précédents. La défense antimissile a intercepté tous les missiles qui menaçaient des centres de population. Et l'information essentielle, c'est évidemment qu'il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Tzahal a également intercepté dans la nuit plusieurs drones iraniens au-dessus du Golan.
Comment expliquer justement, Pascal, ce changement technique de l'Iran ? Pourquoi des tirs maintenant, moins de tirs en tout cas qu'auparavant ?
Alors, il faut évidemment prendre ces développements avec énormément de précautions. Mais ce qui semble, c'est que le fait que l'Iran ait hier tiré moins de missiles, moins de salves nourries qu'il ne l'a fait au cours des premiers jours contre Israël, cela s'explique à cause des frappes de l'aviation de Tzahal. L'aviation israélienne continue en permanence ses rotations vers l'Iran et hier, les frappes ont évidemment continué à viser des composantes du programme nucléaire iranien qui sont évidemment l'essentiel de la feuille de route de l'aviation israélienne, mais aussi tout le dispositif de missiles de l'Iran, c'est-à-dire les missiles sol-air qui servent à la défense de son espace aérien et les missiles sol-sol qui lui servent à attaquer Israël. Israël en a déjà détruit des centaines et surtout des dizaines de lanceurs qui sont indispensables pour tirer ces missiles balistiques. Alors, il s'agit soit de rampes de lancement fixes, celles-là, évidemment, si on n'a pas d'informations préalables sur leur localisation, sont difficiles à repérer, mais on sait aussi que le Mossad en amont a fait un énorme travail de renseignement. Et puis, il y a les lanceurs mobiles, ceux qui sont chargés sur des camions et qui peuvent tirer à peu près 4 missiles balistiques à la fois. Et ce sont ces dizaines de camions que l'aviation de Tzal a déjà détruits, ce qui explique donc une plus grande difficulté de la part de l'Iran à bombarder Israël. Il y a aussi probablement une considération de économie de munitions selon la durée du conflit. Il ne faut pas oublier que Tzal avait déjà, lors de ses précédentes attaques, visé en octobre dernier, des unités de production de missiles. Donc, l'Iran a son stock. Jusqu'où est-il en mesure de le renouveler? C'est justement aussi une des questions. Donc, pour le moment, il faut prendre ce qui s'est passé cette nuit avec précaution. C'est vrai que par rapport aux dizaines de missiles tirés les deux nuits précédentes, cette fois-ci, l'Iran n'en a tiré que 6 et tous donc ont été interceptés.
Alors, régime iranien profondément affaibli, vous le dites, l'Iran aussi se réserve son stock. Du côté d'Israël, est-ce qu'on a un calendrier? Est-ce que Tzal a fait le point justement sur la durée de ses frappes? Parce que pour Israël aussi, c'est important de savoir combien de temps vous allez devoir vivre sous les alertes. Oui.
Évidemment, pour l'instant, ça, c'est évidemment une information, je dirais, stratégique et capitale. Donc, on comprend que Israël ne publie pas d'échéancier, ne publie pas de calendrier sur la durée de sa mission, mais uniquement sur ses objectifs. C'est ce que Benjamin Netanyahou a encore rappelé hier soir lors de la conférence de presse assez particulière qu'il a tenu, puisque le premier ministre israélien était à la tribune, mais dans un bunker, et les journalistes étaient reliés par Zoom avec le premier ministre israélien. En tout cas, ce que Benjamin Netanyahou a rappelé, ce sont les objectifs de cette opération, c'est-à-dire éliminer la menace nucléaire militaire de l'Iran, éliminer sa menace balistique et éliminer sa menace terroriste. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour y parvenir, a été la réponse de Benjamin Netanyahou aux journalistes qui lui ont posé, il en a la même question que vous, sur la durée possible de cette opération.
Alors Benjamin Netanyahou, justement, qui n'a pas exclu l'élimination d'Ali Khamenei, ce qui ne semble pas être au goût de Donald Trump. Justement, Donald Trump, parlons-en, Pascal, parce qu'on a, c'est vrai qu'on a du mal à le suivre en ce moment. On ne sait pas s'il soutient Israël avec ce déploiement militaire dans la région, s'il va faire quelque chose, en tout cas, pour aider l'État hébreu. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus?
D'abord, on a vu qu'hier soir, Donald Trump a écourté sa participation au sommet du G7. Il est rentré à Washington pour tenir un Conseil de sécurité nationale. Il avait été, à son arrivée, interrogé, là encore, par des journalistes à propos de ces messages que l'Iran aurait fait parvenir hier via plusieurs pays arabes, dont les Émirats, dont le Qatar, vers les États-Unis pour dire à Donald Trump « Nous sommes prêts, nous les Iraniens, à reprendre les négociations sur le nucléaire à condition qu'Israël arrête son opération ». Alors, est-ce que les Iraniens sont en train de commencer à agiter le drapeau blanc? Le président américain a répondu que oui, il avait entendu parler de ces appels iraniens, mais il a également dit que les Iraniens avaient 60 jours pour négocier. Ce qui s'est passé le 61e jour n'était pas étonnant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais la réponse de Trump n'est pas claire. Il a tenu il est en train de tenir cette nuit aux États-Unis un conseil de sécurité nationale. On sait que le porte-avions USS Nimitz est en route vers le Proche-Orient avec 28 avions ravitailleurs de l'armée américaine, ce qui n'est évidemment pas anodin. D'un autre côté, il est possible aussi que Donald Trump accepte de reprendre les négociations. Mais hier soir, sur un de ses messages sur son réseau social, il a aussi appelé les habitants de Téhéran à évacuer immédiatement leur capitale. Donc, à l'heure qu'il est, c'est le point d'interrogation sur ce que veut Donald Trump sur la crise iranienne.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine. Peut-être qu'on reviendra aussi avec vous aujourd'hui, peut-être cet après-midi d'ailleurs, sur la fermeture en France de ces 5 stands israéliens d'armement au Salon du Bourget. Est-ce qu'il y a eu une réaction en Israël? Peut-être qu'on fera le point tout à l'heure. Vous restez avec nous, les amis. Merci beaucoup, Pascal. Rendez-vous tout à l'heure à 7h26. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'info avec Eva Soto.
Le 6-9, Radio-J.
Radio-J. 6h15, toute l'actu avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Avant de revenir à la guerre en Iran, celle contre le Hamas à Gaza qui continue avec ses 2 soldats tués, le sergent-chef Naveh Leshem, 20 ans de la brigade Golani, et Tal Movshovitch, 28 ans, commandant adjoint de compagnie du génie de combat. Tous deux sont donc tombés au combat dans la bande de Gaza. Retour à la guerre en Iran avec ces nouvelles alertes au milieu de la nuit à Haïfa et dans les zones environnantes du Nord. Mais le nombre de missiles tirés par le régime islamique a considérablement diminué par rapport à ces derniers jours. Il n'y a pas eu de victimes. C'est dans ce contexte que le premier ministre israélien n'a pas exclu l'élimination d'Ali Khamenei sur ABC. À la question de savoir s'il comprenait les craintes du président Trump sur le fait que cela puisse aggraver le conflit, le premier ministre israélien a affirmé qu'au contraire, ça pourrait y mettre un terme. La radio-télévision d'État iranienne visée par une frappe israélienne hier, Tzahal avait appelé les habitants du quartier de Téhéran à évacuer son siège.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 6h30.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et on se réveille ensemble avec cette chanson très émouvante, écrite au lendemain du 7 octobre. Idan Rachel et Shira Ben Shimron, Drishat Shalom, Mechaim Achirim. Un salut d'une autre vie. Excellent réveil.
שהערב ירד רק עוד קצת לחבק אותך כשבחלום ניפגש כי תמיד בחלום כל הלילה אתה לצידי מדברים כל הלילה מה איתך מה איתי הוא מבטיח לבוא ושואל עד מתי תחכי שוב מתעוררת במיטה לבדי למה לא תבוא לי ביום למה זה תמיד בחלום כמו שהיינו פשוטים דרישת שלום החיים אחרים למה לא תבוא לי היום מאז הזמן עומד במקום כמה כולם מחכים דרישת שלום חיים אחרים אחרים והימים עוברים ויש פחות שאלות וזה לא שברור יותר אבל מה ייתנו לי תשובות מחכה בכל יום שהערב ירד רק עוד קצת לחבק אותך כשבחלום ניפגש כי תמיד בחלום כל הלילה אתה לצידי מדברים כל הלילה מה איתך מה איתי הוא מבטיח לבוא ושואל עד מתי תחכי ואז שוב מתעורר למה לא תבוא לי ביום למה זה תמיד בחלום כמו שהיינו פשוטים דרישת שלום מחיים אחרים למה לא תבוא לי היום מאז הזמן עומד במקום כמה כולם מחכים דרישת שלום מחיים אחרים
Idan Rachel ce matin et Shira Ben Shimron.
Radio J. Radio-G. Le 6-9. Hélène Ferradio.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio-G. Évidemment, toute l'actualité sur cette antenne est bien dirigée sur la guerre Iran-Israël. Et pour en parler, le point de vue de notre correspondant aux États-Unis à New York, Sébastien Lévy, il est avec nous en direct. Bonjour Sébastien.
Tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous pouvez aussi évidemment nous regarder sur notre chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. Alors oui, on va commencer par l'Iran, par le soutien américain finalement de Donald Trump. Est-ce qu'on peut en parler de ce soutien? Puisque c'est vrai, comme on le disait avec Pascal, on a eu du mal à le suivre au début. Il a salué les premières frappes, mais en même temps, il a dit que c'était encore possible d'avoir des négociations avec la République islamique.
Oui, alors il faut rappeler effectivement qu'on en avait déjà parlé à cette antenne, et de toute façon, c'est ce que tous les analystes disent, il y a sans doute eu effectivement un accord des Américains, il y a une certaine coordination, mais dans le même temps, le président Trump a toujours tenu en fait à mettre une certaine distance en disant, en gros, c'est une opération israélienne, ça n'est pas une opération israélo-américaine. C'était aussi pour être bien sûr que la riposte iranienne ne frapperait pas les États-Unis, les installations américaines, mais uniquement Israël. Dans tous les cas, donc, soutien, mais certaines prises de distance en disant voilà, c'est une opération israélienne, mais pas israélo-américaine. Ce qui est intéressant, c'est que on assiste effectivement depuis quelques heures à quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, confusant. Et d'ailleurs, je rejoins complètement ce qu'a dit Pascal Zonchen à cette antenne. Il est un petit peu plus difficile aujourd'hui de suivre ce que veut Trump. Ça peut faire partie d'ailleurs peut-être d'une technique de négociation. Ça traduit aussi peut-être peut-être un petit désaccord qu'il peut y avoir sur la suite des opérations entre le Premier ministre israélien et le président Trump.
Alors, il y a quand même une prudence aussi qui s'installe. Est-ce qu'on peut faire le point justement là-dessus, la volonté de Trump aussi d'éviter peut-être des représailles, puisque Donald Trump pense aussi à ses propres intérêts, Sébastien?
Oui, et surtout, je pense qu'il faut vraiment rappeler l'approche de Trump, qui est vraiment une approche qui est plutôt assez isolationniste et plutôt d'essayer d'éviter d'engager les États-Unis dans la guerre. On sait que Trump n'a pas une assise idéologique extrêmement forte. En revanche, il y a quelques sujets qui sont importants pour lui. C'est l'immigration et c'est l'isolationnisme, le fait de ne pas engager les États-Unis dans des guerres. Il était contre, par exemple, la guerre en Irak, même lorsqu'il ne faisait pas de politique. Et ce à quoi on assiste, on sent depuis quelques heures ou quelques jours que le Premier ministre israélien essaye vraiment de pousser son avantage et de pousser le président Trump à aller plus loin dans son soutien à Israël. C'est aussi le cas, par exemple, d'un sénateur républicain très pro-Israël, très proche de Netanyahou et très proche de Trump, comme Lindsey Graham, qui a dit maintenant, il est temps d'y aller, il est temps vraiment de s'engager complètement avec Israël et non seulement de soutenir Israël, mais même de faire cette guerre avec Israël. Et on voit que Trump, pour le coup, reste prudent et qu'il est fort possible que Trump, et en tout cas, il est possible, mais je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il est possible que Netanyahou ait convaincu Trump de lui donner son soutien en se disant, voilà, cette opération militaire, cette guerre peut vous permettre, Donald Trump, de faire pression, c'est un moyen de pression sur l'Iran. Et il est possible que cette opération, dans les dernières heures, change un petit peu, avec notamment le Premier ministre israélien qui parle ouvertement d'éliminer Khamenei, qui parle donc d'un changement de régime, qui parle également de s'attaquer à la centrale de Fordo. Pour cela, il a besoin de l'aide américaine. Donc vous avez d'un côté une approche de Netanyahou qui est assez jusqu'au boutiste, qui veut vraiment aller jusqu'au bout, et de l'autre côté Trump qui voit cette opération comme un moyen de parvenir à ses fins, qui est plutôt un accord. Et je pense que c'est à cette aune qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans les dernières heures, où vous avez eu là aussi un chaud et froid, c'est-à-dire Trump menaçant très très fortement les Iraniens en disant « évacuez Téhéran ». Dans le même temps, il disait également « écoutez, c'est le moment de signer un deal ». Et j'en veux pour preuve que dans les dernières heures, parce qu'il faut vraiment suivre, il semble que Trump veuille envoyer, négocier avec les Iraniens Witkoff et J.D. Vance. Ça n'est pas indifférent que ce soit ces deux hommes-là qui l'envoient négocier avec les Iraniens. C'est plutôt l'aile isolationniste d'un côté qui veulent plutôt un accord, plutôt que Marco Rubio qui, lui, voudrait plutôt une frappe militaire. Donc, on est aujourd'hui dans ce jeu où Trump semble vouloir quelque chose, utiliser cette opération militaire pour parvenir à un accord, alors que le Premier ministre israélien le pousse plutôt à s'engager directement avec lui. Donc on a vraiment deux approches un peu différentes. Et c'est ce jeu en ce moment.
Et c'est intéressant aussi de revenir sur la relation en ce moment entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Donald Trump qui semble avoir été un peu berné, entre guillemets, par Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'on a entendu de la part de nos invités ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est possible, je ne sais pas si c'est berné, mais il est possible que Benjamin Netanyahou ait vendu un scénario de la guerre à Donald Trump pour avoir son soutien, mais qu'il avait peut-être quelque chose en tête. Donc oui, c'est une forme de berner quelqu'un, de l'utiliser. Et c'est d'ailleurs un risque d'ailleurs pour Israël, parce que si Trump se rend compte qu'il est manipulé et qu'on l'amène vers quelque chose dont il n'a pas envie d'être dragged vers faire quelque chose, c'est-à-dire d'être poussé à faire quelque chose malgré lui, c'est quelque chose qui pourrait se retourner contre Benjamin Netanyahou. En même temps, Donald Trump, je pense, avait conscience de ce qu'il faisait, mais simplement, est-ce que je pense que les intentions définitives de Benjamin Netanyahou n'étaient peut-être pas complètement claires pour Donald Trump, et on est dans ce jeu actuel, et maintenant, il est possible aussi que je sois démenti, il est possible que Donald Trump, son intention, c'est d'aller au bout lui-même, et peut-être qu'il se dit, la meilleure façon aujourd'hui de rappeler la puissance américaine, c'est de faire une exception à mon propre principe, qui est de ne pas engager de force américaine et d'y aller. Mon interprétation, c'est que c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt, il veut un accord. Et maintenant, les choses peuvent changer. Mais il est évident que c'est la relation aussi entre les deux hommes qui se joue aujourd'hui, parce qu'en fait, Donald Trump ne veut pas être amené à faire quelque chose dont il n'a pas envie.
Et c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'il a envie d'avoir un prix Nobel de la paix, plutôt qu'autre chose, hein. C'est ça.
Exactement. Et pour lui, cette opération militaire peut lui permettre de faire pression sur l'Iran. Là aussi, peut-être que c'est une erreur de calcul, parce qu'il n'est pas sûr que les Iraniens veulent vraiment négocier en position de faiblesse. Encore une fois, tout est extrêmement mobile. Et il est possible que ce que je vous dis là soit complètement démenti dans les deux prochaines heures. Il faut être extrêmement prudent en ce moment.
Alors, il nous reste quelques minutes pour revenir sur le reste de l'actualité aux États-Unis. Et c'est important. Ce sont des millions de personnes qui ont participé à ces manifestations No Kings contre Donald Trump. Est-ce qu'on peut justement rappeler de quoi il s'agit, Sébastien?
Il s'agit, en fait, vous avez eu donc samedi dernier, c'était le 16 juin, c'était à la fois l'anniversaire de Donald Trump et c'était aussi les 250 ans de la création d'une des branches de l'armée. Et donc, à cette occasion, Donald Trump a voulu un défilé militaire qui est complètement un peu une anomalie dans l'histoire politique américaine. Vous avez eu quelques défilés militaires, mais plutôt en temps de guerre, pas en temps de paix. Et donc, c'est quelque chose qui heurte un peu la sensibilité, des gens attachés à la démocratie aux États-Unis. Et donc, en opposition, vous avez une immense manifestation, sans doute la manifestation la plus importante dans l'histoire américaine, où vous avez eu des millions de gens essentiellement dans les villes américaines, mais aussi dans des petites villes américaines, pour justement dire « nous ne sommes pas une monarchie, donc c'était no kings, pas de roi ». Vous avez donc d'un côté une manifestation de puissance à l'occasion de l'anniversaire de quelqu'un qui a plutôt une vision autocratique du pouvoir, et de l'autre, il y avait des manifestants dans la rue qui peuvent dire « voilà, ça n'est pas notre tradition, ça n'est pas notre pays », et vous avez vraiment un bras de fer qui continue et qui se renforce entre Donald Trump et donc une grande partie du pays. On l'avait vu à l'occasion de ce qui s'était passé à Los Angeles, vous avez en plus ce conflit très très fort entre les villes américaines et le pouvoir trumpiste, et c'est ça en fait la démonstration de force, elle a été massive, mais j'insiste, ça n'est pas uniquement dans les villes que vous avez eu cette manifestation contre Trump dans les villes, au sein des États-Unis samedi.
On parle de violence politique aussi, Sébastien. Une élue démocrate du Minnesota et son mari qui ont été tués, un autre élu blessé samedi dernier dans un acte de violence politique, justement. C'est ce qu'a déclaré Tim Walz, le gouverneur de cet État au nord des États-Unis. Vous souhaitiez aussi dire un mot là-dessus, hein?
Oui, c'est un événement majeur. C'est quelque chose vraiment dont beaucoup en fait d'université notamment avait mis en garde. C'est-à-dire que dans la dérive autoritaire du pays, une des manifestations d'une dérive autoritaire, c'est de la violence politique. Et à force d'être dans la polarisation, d'utiliser des mots de plus en plus forts contre ses adversaires qu'il qualifie d'ennemis, beaucoup de gens en fait accusent Donald Trump d'avoir alimenté un petit peu cette violence politique. Et on se rappelle, il y a 400 millions d'armes à feu dans ce pays, et ça a conduit au pire. Encore une fois, Donald Trump a dénoncé ce qui s'est passé. C'est évident qu'il y a les États-Unis et qui est de plus en plus forte entre les deux camps, ça risque de pousser à ce genre de choses. C'est peut-être c'est plus qu'un avertissement, c'est quelque chose que beaucoup de gens craignaient. Le pire a eu lieu et beaucoup de gens craignent que demain on aille aussi vers d'autres assassinats, des enlèvements par exemple de journalistes. Donc c'est quelque chose qu'il faudra regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Situation effectivement très inquiétante. Merci beaucoup Sébastien Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Peut-être qu'on reviendra aussi avec vous dans la semaine ou la semaine prochaine sur ce procès qui aura lieu demain. Elias Rodriguez a inculpé pour le meurtre d'un couple devant le musée juif de Washington, qui comparaîtra demain au tribunal. Peut-être qu'on en parlera avec vous. Merci beaucoup Sébastien, je vous dis à très bientôt.
Radio J.
C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal. Radio
J. Bonjour, c'est Serge.
Bonjour, c'est Nicolas.
On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J.
Au programme médecine, chirurgie,
bien-être
et santé. Rendez-vous avec les Raffal père et fils sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirel. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel Enmi, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzar et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzar1948.com.
Netzar1948.com et 0603 52 88 88. Shirel. Sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Tous les matins, nous sommes en direct ce mardi 17 juin, 620e jour de guerre en Israël. Une guerre désormais aussi qui se joue entre Israël et l'Iran. Et le journal avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et avant de revenir à la guerre avec l'Iran justement, il y a celle aussi contre le Hamas à Gaza qui se poursuit.
Avec deux soldats qui ont été tués, Tal Mofchovitch, 28 ans, commandant adjoint de compagnie du bataillon de génie de combat. Et également le sergent-chef Naveh Leshem, 20 ans de la brigade Golani. Il était originaire de l'implantation de Notkim en Judée-Samarie. Un terroriste a placé un engin explosif à l'extérieur de son véhicule.
Et on revient à la guerre donc en Iran avec ces nouvelles alertes au milieu de la nuit à Haïfa et dans les zones environnantes du nord.
Mais le nombre de missiles tirés a considérablement diminué, moins de 10 cette nuit. Contrairement à ces derniers jours, il n'y a donc pas eu de victimes en Israël. C'est dans ce contexte que le premier ministre israélien n'a pas exclu l'élimination d'Ali Khamenei sur ABC. Hier soir, à la question de savoir s'il comprenait les craintes du président Trump sur le fait que cela puisse envenimer le conflit, le premier ministre israélien a répondu ça.
Cela ne va pas aggraver le conflit, cela va y mettre fin. Nous avons connu un demi-siècle de guerre propagée par ce régime qui terrorise tout le Moyen-Orient, bombardant les champs pétroliers d'Aramco en Arabie Saoudite et propageant le terrorisme, la subversion et le sabotage partout. L'Iran veut une guerre sans fin et il nous mène au bord de la guerre nucléaire. En réalité, ce que fait Israël, c'est l'empêcher et mettre fin à cette agression. Et nous ne pouvons y parvenir qu'en nous dressant contre les forces du mal. Écoutez, les démocraties ont dû en tirer la leçon.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que les États-Unis sont parfaitement en accord sur les objectifs de la guerre avec l'Iran. De son côté, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré sur CNN que les États-Unis étaient dans l'obligation d'aider Israël. Mais le président Trump lui affirme encore croire aux négociations.
La radio-télévision d'État iranienne visée par une frappe israélienne hier, Tzal avait appelé les habitants du quartier de Téhéran où se trouve son siège à évacuer.
L'attaque a eu lieu en plein direct où une animatrice voilée s'est fait surprendre lors de son intervention. Un gros boom de la fumée, sa fuite du plateau, l'image rendue cocasse par ce qui semble être une diatribe violente, puis sa sortie du champ de la caméra a fait le tour des réseaux sociaux, donnant lieu à des détournements d'internautes. En tout cas, les programmes ont été momentanément interrompus. Le régime islamique a dénoncé un crime de guerre et a même osé en appeler à l'ONU.
Les dirigeants du G7 appellent de leur côté à une désescalade avec l'Iran tout en soulignant qu'Israël a le droit de se défendre.
Et le président américain a appelé les habitants de Téhéran à immédiatement évacuer la ville alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Mais Donald Trump refuse d'évoquer une participation à l'opération lancée par Israël contre le régime islamique et son programme nucléaire.
Le reste de l'actualité, c'est la France qui ferme 5 stands israéliens d'armement au salon du Bourget. Ils ont été encadrés de grands panneaux noirs.
Leur accès est donc impossible. C'est comme créer un ghetto israélien, a dénoncé le président de l'État d'Israël. Je trouve ça scandaleux et cela doit être immédiatement corrigé, a déclaré Isaac Herzog. 5 sur les 9 entreprises israéliennes présentes sont visées. Selon une source française, elles présentaient des armements offensifs comme ceux susceptibles d'être utilisés à Gaza, ce qui violerait le cadre initialement prévu.
Et puis politique en France, après avoir traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, Jérôme Guedj regrette la forme de ses propos, oui, mais pas leur fond.
Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, hier soir sur BFM TV.
Je vais exprimer un regret, c'est celui d'avoir utilisé ce terme de salopard, parce qu'il n'est pas conforme à la conception que j'ai du débat politique. Il est venu comme ça dans l'emportement de ce moment-là et dans cette nécessité aussi de secouer là où je voyais poindre une forme d'inertie, parce que le cœur du débat était de savoir est-ce qu'on pouvait continuer à avoir des relations avec la France.
Donc vous regrettez ces propos ?
Non, je regrette le terme de salopard. Et en plus, il n'était pas utile. C'est une forme de pléonasme. Antisémite suffisait.
Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gadget, hier soir sur BFM TV.
Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve dans 10 petites minutes à 6h45 pour un nouveau point sur l'information.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Ne bougez pas, les amis, vos rendez-vous à suivre. Microsion, notamment, on va parler aussi de ce Pentagone Pizza, Pizza Meters, notamment. Je ne vous en dis pas plus, mais d'abord, c'est le Dvar Torah du jour avec le rabbin Mevorar Zerbi. Brave, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Hier, on était le 20 Sivan. 20 Sivan, c'est une date un peu particulière. Certains le considèrent comme un jour de jeûne. À une époque, il était respecté comme un jour de jeûne. Jour de jeûne décrété par Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov. Rabbeinu Tam, à la suite de l'accusation de meurtre rituel qu'il y a eu à Blois. On l'appelle Gzerat Blois. C'était en 1171 où 31 juifs ont été brûlés vifs. À la suite de cette accusation à tort, bien évidemment. Ce qui avait beaucoup marqué et choqué Rabbeinu Tam, qui avait donc décrété un jour de jeûne pour le 20 Sivan. C'était réactivé par le Va'ad Arba Arzot, le conseil des quatre communautés. C'était la Grande Pologne, la Petite Pologne, la Ruthénie, la Volhonie, qui avait donc réactivé ce jeûne du 20 Sivan à la suite de ce qui s'est passé dans la ville de Nemerov en Ukraine en 1648, qui a été dévastée par les révoltes des Cosaques dirigées par Bogdan Khmelnytsky. Enfin, c'est une date assez particulière dont on peut remarquer dans certains livres où il y a des sirotes pour le 20 Sivan. Donc un jour assez fort. D'ailleurs, dans l'alliance entre les morceaux, quand Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera pendant 400 ans sur une terre qui n'est pas la leur, l'exil d'Égypte, en fait, ça annonce tous les exils. Et il dit, Yadoa teda ki geriezaracha beresolem, sache que ta descendance sera en exil. Et là, on a, en allusion, en initial, la référence aux jours de jeûne qui sont liés à la destruction du premier temple et finalement de l'exil. Yadoa, sache. Ça commence avec un yud. Le yud, ça veut dire en numérique, c'est 10. Ça fait référence aux 10 tevet, le début du siège de Jérusalem. Teda. Ça commence avec un tav, tav comme Tisha B'Av, le 9 av. Qui, je laisse de côté, guerre étranger, ça commence avec un guimel, guimel comme Gedalia, le jeune de Gedalia, qui est aussi le guimel Tishri, le 3 Tishri. Yiye Zaracha sera ta descendance, les initiales c'est Yud Zayin, Yud 10, Zayin 7, ça fait 17, c'est 17 Tamouz. On a ici tous les quatre jeûnes liés à la destruction notamment du premier temple, avec certains qui sont liés aussi avec le deuxième temple. Mais au milieu, il y a un kaf. Qui est Yézara? Kaf, c'est 20. Ça fait référence au 20 Sivan. Alors ça, c'était hier. Pourquoi je vous en parle? Parce que je veux avoir une perspective positive dans cette période difficile pour Israël, pour le peuple juif, et je dirais pour le monde entier. Parce que ce qui se passe, eh bien, concerne le monde entier. Eh bien, on peut espérer voir de la lumière. Et cette lumière, ben, je l'espère pour les jours qui arrivent. Notamment, le 23 Sivan. 23 Sivan, c'est jeudi prochain. Le 23 Sivan est mentionné dans la Megillat Esther. La Megillat Esther qui raconte l'histoire du roi Suérus, roi de Perse et de Mède. Tiens. Parasumadai, avec l'histoire d'Esther. Et la date du 23 Sivan est marquée en toutes lettres comme le jour où étaient envoyées les deuxièmes lettres qui permettaient de contrer le décret d'extermination qu'avait lancé Haman. Autrement dit, c'est un jour qui a de la lumière de Pourim. La lumière de Pourim, c'est Vena Forouk, se renverse pour le bien. Pour le bien, mais c'est ce qu'on va souhaiter. Qu'il y ait de bonnes nouvelles. D'ici jeudi prochain, je ne suis pas futurologue, mais enfin d'espérer, puisque c'est marqué, je fais juste référence à ce qui est marqué dans la Bible, ce qui est marqué dans la Megillat Esther, de cette date du 23 Sivan, qui correspond à jeudi, qu'on ait de bonnes nouvelles d'ici là, de paix, de tranquillité, de quiétude, de shalom, de paix, soit au vote de bonnes nouvelles. Excellente journée.
Yeah.
Le Dvartora du Rabbin, Mevorar Zerbib, à demain.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là, chaque seconde, auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org
mda-france.org
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous, 6h41, Micro-Sion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Mais pourquoi l'usine de textile de la ville de Dimona est-elle aussi célèbre ? C'est parce qu'en réalité, depuis 1957, ce bâtiment accueille dans un secret de polichinelle un complexe nucléaire. Dans le plus grand secret, au début de 1957, des ingénieurs français s'installent dans la ville de Dimona pour aider leurs collègues israéliens à la construction d'un site industriel qu'Israël présentera pendant plusieurs années comme une usine de textile. L'État d'Israël reconnaît l'existence de ce site, mais refuse de communiquer sur son objectif militaire. Les informations de ce site sont donc classées secret défense. En Israël, le nucléaire militaire est un tabou qui relève plus de la doctrine stratégique que du secret technique. Situé dans le désert du Negev, à 15 km au sud-est de Dimona et à 20 km à l'ouest de la mer Morte, le site comprend non seulement une centrale nucléaire, mais aussi d'autres installations essentielles au développement du programme nucléaire israélien. Historiquement, en 1957, un accord secret est conclu entre la France et Israël pour la construction d'un réacteur nucléaire. La construction débutera l'année suivante grâce à l'assistance technique de la France, encadrée par le protocole de Sèvres. Le complexe a été construit en secret et en dehors du régime d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En 1961, le général de Gaulle décide de terminer la construction du réacteur de Dimona et de cesser toute aide française concernant l'usine de séparation du plutonium.
Micro-Sillon, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Chers auditeurs, nos chers auditeurs, ce matin on va parler géopolitique, et oui encore, mais rassurez-vous, à la sauce mozzarella et emmental. Mozzarella. Et oui, vous pensiez que pour anticiper une frappe militaire des États-Unis, il fallait être analyste au FBI, hacker à lunettes ou espion en impair. Faux ! Il suffisait de regarder les pizzerias autour du Pentagone. Et oui, vous avez bien entendu, bienvenue dans le monde du Pentagone Pizza Meter. Un indice secret mais croustillant. Plus il y a de livraisons de pizza, et c'est pas un gag les amis, dans les couloirs du département de la Défense, plus la planète doit serrer les fesses. Alors je vous explique, quand une opération militaire se prépare, tout le monde reste vissé à son bureau. Pas question de sortir chercher un sandwich au coin de la rue. Alors on commande en masse. Résultat, une explosion de commandes chez Domino's.
C'est vraiment pas les meilleurs. Hein.
Papa Jones et compagnie. Et ça, Google le capte. Les datas ne mentent pas, surtout quand elles sentent le fromage fondu. Et devinez quoi ? Jeudi dernier, à 16h, justement, heure de Washington, pic de pizza. Et wow. À 20h, frappe sur l'Iran. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors, on ne sait pas si c'est l'anchois ou l'artillerie qui est arrivée en premier, mais ce qui est sûr, c'est que les serveurs n'ont pas eu le temps de refroidir. Plus il y aurait donc de livraisons de pizza au Pentagone, plus le risque d'une attaque militaire serait élevé. Fun fact, ma chère Eva, déjà pendant la guerre froide, les espions soviétiques surveillaient les livraisons. Un peu comme si James Bond passait ses journées à mater Uber Eats, hein, finalement. Et dans les années 90, un franchisé de Domino's repérait des pics de commandes avant des événements majeurs comme l'intervention au Koweït ou les auditions de Bill Clinton pendant l'affaire de Monica Lewinsky. Donc apparemment, les crises politiques, oui, donnent très fin. Voilà, c'était pour l'actualité du jour. Vous restez avec nous tout de suite, c'est toute l'info avec vous, Eva Soto.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
6h45 minutes, et oui, toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et avant de revenir à la guerre avec l'Iran, celle contre le Hamas à Gaza qui continue, deux soldats ont été tués. Le sergent-chef Naveh Leshem, 20 ans, et Tal Moshkovitch, 28 ans, qui était commandant adjoint d'un bataillon du génie de combat. Retour donc à la guerre en Iran avec ces nouvelles alertes au milieu de la nuit à Haïfa et dans les zones environnantes du Nord. Mais selon un décompte ce matin de Tzal, moins de 10 missiles ont été tirés dans la nuit. Beaucoup moins donc que ces derniers jours. Il n'y a pas eu de victimes. C'est dans ce contexte que le premier ministre israélien n'a pas exclu l'élimination d'Ali Khamenei, le guide suprême. C'est ce qu'il a dit dans une interview sur ABC, la radio-télévision d'État iranienne visée par une frappe israélienne hier. Tzal avait appelé les habitants du quartier à les évacuer. Les dirigeants du G7 appellent à une désescalade avec l'Iran tout en soulignant qu'Israël a le droit de se défendre.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 7h15, 7h le journal d'Israël.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Tout de suite, c'est Mila, le mot du jour, apprendre un mot, une expression en hébreu chaque jour sur Radio J avec Aaron Lamy. Bonjour Aaron, Boker Tov.
Bonjour Ilana, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à toutes nos auditrices. Milat Hayom, le mot du jour. Je vous parle de Shemen ce matin. Shemen, alors vous le connaissez peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire l'huile. L'huile, Shemen, Shemen Zait, l'huile d'olive. Shemen, donc c'est l'huile songeurée. Masculin, zahar. Et comment on dit féminin? Vous vous en rappelez peut-être, féminin, c'est plutôt nekeva. Donc en tout cas, shemen, c'est en hébreu, c'est masculin. Au pluriel, on dira shmanim, des huiles, avec cette désinence, cette terminaison caractéristique des mots masculins. Donc on pourra dire shemen rave, ouais, de l'huile épaisse, ou shemen rave, de l'huile épaisse, ce sera un synonyme, ou encore shemen tov, de la bonne huile. Vous voyez, avec évidemment l'adjectif qui s'accorde toujours en genre et en nombre avec le substantif. Alors l'huile d'olive notamment était très utilisée dans le temple de Jérusalem. Avec l'huile d'olive, on faisait brûler les fameuses bougies, la menorah, dans la menorah qui était allumée chaque jour par un prêtre dans le temple de Jérusalem. Et l'huile, cette huile pure, cette huile propre qui était concassée, qui était de la première pression à froid, eh bien, c'est celle qui allait donner la lumière à partir duquel, donc, qui sortait de cette huile. Et donc, on va dire métaphoriquement, l'huile d'olive fait aussi en général référence à la sagesse, à l'intelligence. On dit d'ailleurs que il y a quelque chose comme ça dans le Talmud qui dit que manger, boire, alors pas boire de l'huile d'olive, hein, mais en manger, en mettre sur ses plats, ça rendrait intelligent. Alors aussi probablement parce que l'huile, c'est ce qui permet de créer de la lumière à l'époque et c'est ce qui permet d'éclairer. Et vous connaissez le lien évidemment métaphorique entre la connaissance et la lumière. Dans Shemot, donc dans le livre, le deuxième livre de la Bible, en chapitre 30, verset 25, à moins que ce soit le contraire, en chapitre 25, verset 30, j'ai deux versions dans mes notes. Ve'asita oto mishrat kodesh. On va parler de shemen mishrat kodesh, donc de l'huile de sainte onction. Parce que l'huile d'olive, c'était aussi quelque chose qui servait pour l'onction du grand prêtre, notamment. Donc c'est ce qui permettait de ça incarnait également la transmission, la tradition qui se perpétue et jusqu'au la fin du premier temple. On a eu une huile d'onction qui venait directement de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Shemen, c'était donc le mot du jour, Milat Hayom. On est sur Radio J. Boker Tov Lekoulam.
Toda Rabba, merci beaucoup Aaron Lamy. On vous retrouve donc tous les jours sur Radio J et aussi en podcast sur radioj.fr.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
6h05 après 50 minutes. Raïm Nissenbaum à présent pour un jour une mitzvah. Raïm, bonjour.
Bonjour à tous. Intéressons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien, au plus grand titre de gloire qu'on puisse donner dans les communautés juives, celui de Talmid Chacham, ce qui désigne celui qui a étudié la Torah profondément, qui connaît réellement notre sagesse. Bien, très littéralement, si on traduit ce terme, il signifie élève sage. Cela peut paraître surprenant. Pourquoi faire cohabiter l'élève et le sage dans la même appellation ? Cet homme doit-il être encore considéré comme un élève, alors qu'il a certainement lui-même ses propres des disciples ? Eh bien justement, ce titre est un enseignement pour celui-là même qui le porte, et bien sûr pour les autres. Il ne peut être considéré comme véritablement chacham, sage, que s'il est toujours à ses propres yeux un talmid, un élève. En effet, la Torah, parole de Dieu, expression de sa sagesse, est infinie. Son étude n'a pas de limite. Aussi, tout homme, quel que soit son degré de connaissance préalable, a toujours quelque chose d'autre, de nouveau, d'important à y trouver. Et devant la parole de Dieu, ce sentiment de contentement de soi qui pourrait pousser à se qualifier de sage ne peut que disparaître. Devant la divinité, on ne peut plus être qu'un talmid, un élève, un disciple. Oui, c'est bien ainsi qu'il faut comprendre le titre. Élève, c'est un beau nom. Si on le refuse, on n'est pas digne de celui de sage. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Raïm Nissenbaum. Raïm qu'on retrouve évidemment au quotidien sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous, 6h51, et on parle d'Elal. Et oui, pour l'instant, il y a très peu d'informations sur les vols pour les Français notamment, mais pour les Israéliens, il faut le savoir, on l'a appris hier, Elal qui a ouvert les inscriptions pour rapatrier ses passagers bloqués à l'étranger. Effectivement, la compagnie a indiqué l'ouverture des inscriptions pour des vols de rapatriement destinés à ses clients bloqués à l'étranger depuis la fermeture de l'espace aérien israélien. Elal finalise actuellement la liste des destinations et le nombre de vols autorisés dans le cadre de ce plan. L'objectif de l'enregistrement est de cartographier la localisation de nos clients dans le monde et d'établir un programme de vol en conséquence. Voilà ce que dit la compagnie dans un communiqué. Elal qui accordera la priorité aux cas humanitaires exceptionnels sous réserve de présentation de certificats appropriés et d'approbation par une équipe médicale ainsi qu'aux besoins politiques et sécuritaires soumis aux approbations des autorités compétentes. Alors les informations ne sont pas très claires, mais ce qu'on sait, c'est que Elal ouvre donc ses réservations pour les vols de retour de ses passagers. Arkia également crée un plan de vol et on pourra aussi, en tout cas les Israéliens qui sont bloqués à l'étranger, pourront bientôt rentrer par la mer, puisque Mano Maritime déploie deux navires de croisière pour ramener ceux qui sont bloqués à Chypre. Effectivement, donc continuez à vous renseigner sur le site d'Elal, sur le site d'Arkia également. Pour l'instant, pour les Français, j'ai regardé, il n'y a pas vraiment d'informations. On ne sait pas si les Français qui sont en Israël pourront bientôt revenir en France. Arkia, qui travaille actuellement sur un calendrier de vol au départ de plusieurs destinations proches, Athènes, Larnaca, Rome, Paris et New York. En tout cas, les vols commenceront dès que les autorités chargées de la sécurité les auront approuvés et seront assurés 7 jours sur 7, y compris pendant Shabbat. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est l'infotrafic en région parisienne et puis on sera avec notre ami Frédéric Zetoun pour son concert ce dimanche au Casino de Paris. À tout de suite.
Radio J.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J.
Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Merci de nous rejoindre pour l'infotrafic en région parisienne. Et ce matin, difficulté de circulation et jusqu'au 20 juin en raison de travaux d'entretien et de sécurité nécessitant de multiples fermetures nocturnes, notamment dans l'est de l'Île-de-France. Et puis, difficulté de circulation également sur la 1 et la 86 jusqu'à dimanche en raison du salon du Bourget. Les difficultés de circulation attendues sur la 1 et la 86. Et puis, dans les transports en commun, chemin. Trafic interrompu sur la ligne D du RER de Stade de France-Saint-Denis vers Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à 7h10. Et puis si vous empruntez la ligne A également, trafic perturbé de Cergy-le-Haut vers Nanterre-Préfecture et de Poissy vers Nanterre-Préfecture.
Radio G.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio G.
Mais je n'ai rien trouvé pour la peine. Je fais un tribute à moi-même. Une calvitie, des cheveux blancs et mon plus beau fauteuil roulant.
Et aujourd'hui, on reçoit un artiste qu'on aime beaucoup pour ses mots justes, son regard tendre sur la vie, ce petit grain d'humour qui fait tout passer beaucoup plus doux. Auteur, chroniqueur, parolier, chanteur, Frédéric Zetou nous emmène en chanson là où ça fait du bien. Et ça tombe bien, il sera sur la scène du Casino de Paris ce dimanche 22 juin pour un concert pas comme les autres, entre confidence, chanté, complicité et joie de vivre. Bref, c'est tout Frédéric Zetou, quoi. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour. Et comment ça va?
Eh bien, ça va très bien. Et vous-même, Frédéric, je suis très content de vous entendre.
Bah, écoutez, un petit peu matinal ce matin. on a répété jusqu'à très tard hier soir. Donc voilà.
La voix un peu enrouée.
Voilà, j'ai pas l'impression que la nuit ait été extrêmement longue, mais je suis très heureux d'être avec vous ce matin.
Bah, avec plaisir partagé. Alors, votre concert au Mythique Casino de Paris aura lieu ce dimanche. Ce sera un moment unique. Comment vous vous sentez à l'idée de fouler cette scène?
Alors, comment vous dire? Alors, la trouille, non, c'est pas le mot. Le trac, c'est pas le mot. Je pense que je vais recommencer à respirer en sortant de scène dimanche. Voilà, c'est un petit peu, je suis en apnée. Très, très, très content d'y aller. Les répétitions se passent bien. Le casino est en train de se remplir et ça me fait extrêmement plaisir parce que vraiment il y a de plus en plus de gens qui nous font confiance et ça fait vraiment, c'est chouette. On a un beau spectacle. J'ai demandé à Alain Saxe, qui est un metteur en scène qu'on ne présente plus, de venir nous donner un petit coup de main sur ce spectacle, voir un peu, voilà, on voulait avoir une petite mise en scène et ça se passe plutôt pas mal.
Alors, ce seront des chansons du nouvel album, hein, justement.
Exactement. Il y a tout le nouvel album, Les Souvenirs de Demain. Oui. Il y a donc 10 chansons nouvelles pour les gens qui seraient venus nous voir il y a un an et demi maintenant, parce qu'on fait une salle parisienne à peu près tous les ans et demi. Il y a vraiment énormément de nouvelles chansons. Il y a une nouvelle façon aussi d'avoir ordonnancé tout ça. En fait, qu'on connaisse ou pas mes chansons, on peut venir et je vous raconte une histoire pendant une heure et demie.
Et ça c'est tout vous, Frédéric. Vous dites souvent que l'humour aussi c'est un formidable médicament et je crois que vous l'exprimez beaucoup aussi dans cet album.
Oui, alors il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a des moments assez graves dans ce spectacle. Mais Ilana a l'image de la vie, quoi. Et surtout ce qu'on a voulu essayer de faire là, c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire que bon, vous avez des gens qui passent à la radio, dont on connaît les chansons, et on va les voir parce qu'on sait qu'on va écouter telle ou telle chanson que l'on a entendue à la radio. C'est pas notre cas. Nous, on vient vraiment nous voir pour avoir une histoire. Et je vais pas vous dire que c'est une pièce de théâtre. Non, c'est vraiment chanté. C'est chanté. Il y a des intermèdes, mais qu'on nous connaisse ou pas, on peut venir et prendre une tranche de vie d'une heure et demie.
C'est ça,
ouais. En musique.
Alors, est-ce qu'il y aura des petites surprises peut-être sur scène? Même si, bon, si vous le dites, oui, ce ne sera plus une surprise, mais est-ce que vous pouvez peut-être donner...
Il y aura quelques invités, il y aura quelques amis musiciens émérites qui vont venir nous filer un coup de main. En première partie, il y a quelqu'un, et je le cite, parce que ça me fait vraiment extrêmement plaisir qu'il accepte de venir. Si je vous dis Jacques Vénérouzeau, vous allez me dire, bon, en tant qu'artiste, je vois pas qui c'est. Jacques Vénérouzeau, c'est celui qui a écrit les plus grands tubes de Garou, de Céline Dion, de Yannick Noah. Il va venir pendant une demi-heure nous prêter un peu de son talent avec toute une série de tubes qu'il a composés pour les autres. Lui, donc, il sera en première partie, un entracte, et à partir de 18h45, on enchaîne pour une heure et demie, j'espère une heure et demie enchantée.
Eh bien, c'est parfait. Frédéric Zetoun, ce dimanche 22 juin à 18h, à partir de 18h au Casino de Paris. Vous pouvez prendre évidemment encore vos places sur le site du Casino de Paris. Merci beaucoup, Frédéric. Et je vous laisse avec cette air, le tribute à moi-même de votre nouvel album. Merci et à très bientôt.